Une des premières lettres que nous avons de l'apôtre Paul, c'est une lettre qu'il a écrite à une église de Macédoine qui s'appelle Thessalonique. Thessaloniki en grec, aujourd'hui. Notre sujet va traiter de l'espérance. Vous savez, l'apôtre Paul mettait souvent trois choses ensemble: l'amour, la foi et l'espérance. L'espérance, c'est ce petit ressort intérieur qui nous pousse vers l'avant. L'espérance. Si quelqu'un manque d'espérance, il est figé, il avance quasiment plus, il fait plus d'efforts pour aller à un but. L'espérance, ça a un but. Un des problèmes en français, c'est que quand un français moyen vous dit « j'espère », il veut dire « ce serait bien si ». Donc, c'est pas sûr. Mais dans la Bible, l'espérance est promise. C'est pas la même chose que l'espérance où on prend nos envies et on projette devant. Vous comprenez? C'est promis par Dieu, et ce qui est promis, c'est souvent beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Vous vous souvenez de la lecture de Romains 8? Romains 8, on l'a lu tout à l'heure. Qui est-ce qui espère? Nous. Mais aussi, le monde espère. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas que nous qui soupirons. Soupirer, ça veut dire désirer que quelque chose vienne. Mais c'est le monde, la nature. Alors, ça pose des questions. Il n'y a pas que nous qui espérons un monde où la justice habite et où la mort ne sera plus. Une vie marquée par l'espérance chrétienne. Ce que nous avons lu tout à l'heure, en préambule, par Christian, c'est 1 Thessaloniciens 4, juste avant ce passage que nous allons étudier. C'est ce qu'on a lu. Sur l'amour fraternel, on n'a pas besoin de vous écrire quand vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on a appris de Dieu à nous aimer les uns les autres? Parce que Dieu est amour, ses enfants, ils doivent avoir les marques de famille. Les marques de famille de Dieu. À vous aimer les uns les autres. À avoir de la considération mutuelle. Et vous faites bien d'ailleurs à tous les frères et sœurs, etc. Nous vous exhortons, frères, à faire encore de nouveaux progrès. C'est drôle, hein? Il dit, vous n'avez pas besoin, vous vous aimez, mais faites encore des progrès. Ah ben c'est nous ça. Non, c'est pas nous. On est toujours en chemin, hein? On n'est pas arrivé. Ayez à cœur de vivre dans le calme ou en paix, de vous occuper de vos propres affaires. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Est-ce qu'ils s'occupaient des affaires des autres? Faire des progrès dans l'amour en s'occupant de ses propres affaires, et après il y a travaillé de vos mains. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il glandait ou quoi? À travailler de vos propres mains. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'il croyait que le Seigneur allait venir, il n'y a pas besoin de travailler? Comme nous vous l'avons ordonné, pour que votre conduite soit honorable au regard des gens du dehors, c'est-à-dire que votre style de vie parle. Je sais que votre manière de vous conduire parle avant que vous parliez, ou en même temps que vous parliez de l'Évangile. Que vous n'ayez besoin de personne. Ça, c'est juste avant. Maintenant, je vous montre mes notes. Mais ne lisez pas tout, je vais vous le dire. Thessalonique, capitale de la Macédoine dans la Grèce actuelle. Thessaloniciens, c'était les gens qui ont reçu cette épître et ils font partie d'une église toute nouvelle. C'est pas comme la nôtre, hein, qui a combien d'années?
Beaucoup plus que ça.
250.
Et elle était composée de pagano-chrétiens et de judéo-chrétiens. Des gens qui viennent du judaïsme, qui sont tournés vers Jésus le Messie, et des païens qui se sont détournés des idoles pour revenir Jésus le Messie. Alors, ils n'ont pas tout à fait l'habitude de vivre ensemble, ceux-là. Hein. On aimait bien les séparations. Hein. Les païens, c'est impur. Les juifs, c'est pur. Enfin, vous comprenez le truc, hein? Bon. Cette communauté, elle est née du passage de l'apôtre Paul, de Silas et de Timothée. Qui est-ce qui a écrit Thessaloniciens? Pas seulement Paul. Ils étaient trois. Vous regardez le début de Thessaloniciens, il y a trois qui ont écrit. Ils se sont mis d'accord pour écrire cette lettre de recommandation, la plus vieille que nous ayons, en tout cas de Paul. C'est le « nous ». Nous vous écrivons. Il a dû quitter très vite Thessalonique, de nuit, parce qu'il y avait une opposition dans cette ville païenne, des Juifs qui refusaient que Jésus soit le Messie. Souvenez-vous ? Voilà. On est vers 50 après Jésus, à peu près. C'est à peu près 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Situé ? Alors, un problème. Il y a eu des chrétiens de Thessalonique qui sont morts. Comment penser les morts ? Il y a eu des décès parmi les chrétiens. Et des nouvelles questions. Quand quelqu'un meurt et qu'on s'attendait que Jésus allait revenir tout de suite, il y a des questions avec les morts. Hein ? Oui. Et les questions avec les morts, c'est qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va en advenir d'eux quand Jésus revient ? D'accord ? Est-ce qu'ils vont être les oubliés de l'histoire ? Ou est-ce qu'ils seront associés à la victoire de Jésus qui revient ? D'accord ? Vous comprenez la question ? Nous, les vivants, on sait, quand Jésus revient, on sera avec. Mais, et les morts ? Est-ce que c'est désavantageux d'être mort quand Jésus revient ? C'est drôle, nous, les questions, on ne les pose pas, hein, parce que ça fait 2000 ans. Et Paul y répond dans un des plus anciens. Je vous lis. Voilà la suite. Nous ne voulons pas, frères, les sœurs, vous êtes comprises, vous laisser dans l'ignorance. C'est le verset 13 du chapitre 4 des Thessaloniciens, je le lis dans la version TOB, qui nous est un petit peu plus étrangère que la seconde. Au sujet des morts, littéralement, au sujet de ceux qui dorment. C'est une drôle de manière, hein. Ici repose, c'est dans notre cimetière, c'est au sujet de ceux qui dorment. En fait, c'est des morts. Afin que ne soyez pas dans la tristesse. En fait, les Thessaloniciens ne savaient pas quoi penser au sujet de ceux qui sont morts par rapport au retour de Jésus. Au sujet de tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance, ou plutôt pas d'espérance au-delà de la vie. Verset 14. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts, de même aussi, ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira, ou littéralement, par Jésus les amènera avec lui. Littéralement. Donc ça c'est la réponse. Vous en vous occupez pas, Jésus, il prend en charge. Et lui, il a vaincu la mort. D'accord ? On lit. Verset 15. Voici ce que nous vous disons, d'après une parole du Seigneur. Donc il se souvient d'une parole de Jésus, hein ? D'après une parole du Seigneur, nous, les vivants, enfin, à ce moment-là, les vivants, nous, les vivants, qui seront restés jusqu'à la parousie du Seigneur, jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts. Conclusion, il n'y a pas de désavantage, c'est ça, au commentaire, hein ? Nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts. Alors, je le redis, et voici mes notes, je ne suis même pas obligé. Une conviction. Si Jésus est mort et ressuscité, de même Dieu les amènera avec lui. Ça, c'est le fondement de tous les chrétiens. C'est une espérance. La mort n'est pas le dernier mot. Mes amis, si la mort est le dernier mot, on est comme tout le monde. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Vous comprenez ? Si la mort est le dernier mot, mais la mort dans l'Évangile n'est pas le dernier mot, c'est la raison pour laquelle c'est très important, à cause d'une parole du Seigneur, peut-être dans Matthieu 24, alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, c'est-à-dire du juge de Dieu, nous dit Matthieu 24, verset 30. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel dans une plénitude de la puissance de la gloire. Et il enverra ses anges avec une grande trompette et des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre, et c'est là qu'il cite, il rassemblera ses élus. Vous comprenez ? Quand Jésus revient, il rassemblera ses élus, morts y compris. C'est sans doute ce dont se souvenait le trio qui a écrit les Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'on retient ? Nous les vivants ne devancerons pas les morts en Christ, mais simultanément, ça c'est en grec, d'abord les morts, et simultanément, dit le grec, nous les vivants. De ce fait, ils ne seront pas désavantagés. On retient ça ? En fait, c'est très simple. On retient ça. Ce n'est pas un désavantage d'être mort en Christ. Quand il reviendra dans son cortège triomphal sur la terre, il s'en charge d'abord. Et simultanément, nous les vivants. D'accord ? On retient ça ? Aucune allusion à une grande détresse de la fin des temps ici. C'est une première lettre. Il n'y a pas encore la persécution générale. Il n'y a que des persécutions locales. D'accord ? Plus tard, 40 ans après, quand les épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, d'accord ? Là, l'Antichrist est présent. D'accord ? Mais entre là, pas encore. On continue, c'est intéressant, on continue dans la lecture de la Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 18. Un des passages les plus controversés, y compris parmi les évangéliques. Car lui-même le Seigneur, et c'est ça, c'est le Seigneur qui est la clé, c'est pas les chronologies et les datations. Le Seigneur, donc, ressuscité, au signal donné à la voix de l'archange, et au son de la trompette, où est-ce qu'il est, Christian ? Au son de la trompette, dans le temps, la trompette, c'était pas pour accompagner. C'était. La trompette, c'est signe d'assaut. L'assaut. La trompette. Signe d'assaut. Descendra du ciel. Où est-ce qu'il va ? Sur la terre. Alors, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Vous savez ça ? Mes amis, nourrissez votre espérance, c'est-à-dire votre présent et perspective de vie, de la résurrection. Et pas d'une chorale éternelle dans le ciel, hein. C'est la venue triomphale du Christ qui règnera globalement. Ils ressusciteront d'abord, ensuite nous, et c'est là qu'il y a le mot grec de simultanément. L'ensuite nous, c'est dans l'immédiat qui suit. Les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et beaucoup de gens l'ont pris littéralement. Moi, je me souviens, quand j'étais catéchisé au début, on l'a pris littéralement. On imaginait que des gens seraient dans les airs. On ne sait pas trop à quelle altitude, mais ils seraient pris à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur, vous retenez ça ? Où est-ce qu'on va ? À la rencontre du Seigneur. Et où y va le Seigneur ? Eh oui, bonne question. Dans les airs, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les airs. C'est où l'air ? C'est partout. Alors, on continue. Et ainsi, et c'est ça qui me paraît capital de le retenir, les couleurs n'étaient pas dans la Bible, hein, c'est moi qui les ai mis, vous avez compris. Hein. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Nourrissez-vous votre espérance de je ne serai pas déconnecté, je serai partie de son triomphe de gloire avec le Seigneur. Pourquoi faire? C'est une autre question. Continuons. Réconfortez-vous. C'est ce que nous sommes en train de faire les uns, ensemble. Réconfortez-vous. Est-ce qu'on a besoin d'être réconforté? Ah oui, moi aussi. Dans ma faiblesse. Dans la fantaisie parfois de mes pensées. Dans l'orientation de mes activités. Dans mes relations. Réconfortez-vous. Les uns les autres par cet enseignement. Maintenant, jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu, que vient faire le Seigneur est tellement important. Que vient faire le Seigneur quand nous serons avec lui à ce moment-là? Que vient faire le Seigneur? Régner totalement. Est-ce qu'il règne totalement en ce moment? Il y a des endroits où on se dit c'est pas le règne du Seigneur, c'est le règne de la corruption. Et il ne faut pas confondre. D'accord? Et même dans mon cœur, est-ce qu'il règne totalement? Oui, Seigneur, je le veux, dans l'orientation. C'est pour ça que le culte est là, pour nous réorienter. Dans toute notre vie, nous avons besoin de cette réorientation. Le passage du Christ pour nous renouveler, pour nous réorienter. C'est ça le but du culte et des prédications aussi. Et de l'adoration aussi. Je continue. Je reprends certaines choses au signal et à la trompette. Vous vous souvenez? C'est donc le commandement d'assaut du Seigneur. Quand le Seigneur revient, signal, trompette. Le Seigneur intervient radicalement, descendra du ciel. C'est quoi ce truc? Le ciel, c'est le lieu de résidence et le trône de Dieu. C'est pas là où nous allons, c'est là d'où il vient. Je le redis, c'est pas où nous allons, c'est là d'où il vient. Le Christ, il est où en ce moment? D'où il vient? Auprès de Dieu. Et la question, qu'est-ce? Pourquoi faire? C'est une question très importante. C'est l'image de la souveraineté totale divine. Pour le moment, il y a comme des lieux d'absence de seigneurie du Christ. Un jour, il viendra pleinement. Vous vous souvenez, la nostalgie, comme Romains 8 nous dit, et nous aussi, nous gémissons dans notre cœur. Après quoi nous gémissons? Après quoi nous aspirons? Comment dire? Il y a des plaintes, des gémissements qui sont pathologiques et inutiles. Les Français moyens, ils se plaignent surtout. D'accord? Vous voyez le truc? Mais gémir droitement, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire être orienté et souffrir encore de ce qui ne va pas. Vous comprenez? Souffrir encore du péché et de l'injustice et de la méchanceté. Ça, c'est typique du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a créé toute chose bonne. C'est l'Esprit qui est à l'œuvre pour recréer. Chaque fois qu'il y a une recréation, il y a notre Seigneur, le Saint-Esprit, à l'œuvre pour restaurer. Céleste, c'est l'orientation actuelle de notre vie. Notre vie parce que notre Seigneur est à la droite de Dieu. Maintenant, le Christ règne. Et ça, on trouve dans les Éphésiens et Colossiens. Toutefois, la perspective ultime du Christ est d'abord terrienne. Il vient pour que l'univers soit changé, la terre y compris. C'est pour ça que la question de tout à l'heure, derrière le texte, il vient pour quoi faire, est très importante. Ils ressusciteront d'abord les morts au Christ, ensuite nous. Vous vous souvenez de ça? C'est le premier effet de sa venue. Mais ce n'est que le premier effet de sa venue, la résurrection. Le but n'est pas que la résurrection. Vous savez quel est le but du Seigneur?
La vie.
Régner avec lui. C'est ce que vie éternelle signifie. Éternel, c'est une qualité, ce n'est pas qu'une quantité. Éternel, c'est une qualité. Dans la durée, pas qu'une quantité où on s'ennuie. Régner avec lui, gérer avec lui. Adam et Ève, dans la Genève, a été créé avec une mission. gérer le jardin. Eh bien, de même, nous retrouvons ceci. Même dans une des paraboles, il est dit, c'est bon, bien et bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, je t'établis sur des villes. Vous vous souvenez ça? Je ne sais pas s'il y a des villes dans le ciel. Des villes. Ensuite, puis, nous serons enlevés avec eux. Du verbe enlever. Enlever de force. Ça veut dire ravir aussi en français. Nous serons ravis, saisis à la hâte. Ensemble avec. Et toute différence alors avec les morts en Christ et nous les vivants sera abolie. Je le redis. Nos frères et nos sœurs qui aiment le Seigneur de toutes les langues, de toutes les cultures, de tous les lieux, nous serons associés avec lui à un moment donné, toute différence dans la résurrection seront abolies. Moi je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mon imagination a ses limites, mais je me réjouis de savoir que cette espérance-là oriente maintenant ma vie et nos vies. Réconfortez-vous avec cette parole. Fortez-vous avec cette parole. Sur les nuées, nous serons ravis, nous serons sur les nuées. Alors, le mot nuée se retrouve dans la Bible chaque fois que Dieu descend. Souvenez-vous, le Sinaï, il y a eu des tonnerres, des éclairs, des trompettes, etc. Toujours, hein, c'est, les nuées, c'est un peu une sorte d'ascenseur de la gloire de Dieu. Gloire de la manifestation de Dieu lui-même. Je vous laisse ceci à la rencontre du Seigneur. Où est-ce que tu vas ? Ravi à la rencontre du Seigneur. Attention, maintenant je vais toucher une petite image qui était commune pour tous les Romains et qu'on oublie un petit peu. Quoique, j'aimerais vous dire, quand le président indien, le président d'Inde est venu. Vous savez, vous avez suivi les actualités, qui va à la rencontre du président de l'Inde pour le 14 juillet ?
Madame.
Ah, j'ai cru que c'était Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous pensez si personne n'était venu à la rencontre du président indien quand il est venu à Roissy ? Si personne n'était venu à la rencontre ? Qu'est-ce que ça aurait donné ?
Incident diplomatique.
Incident diplomatique. Pourquoi incident diplomatique ? Parce que ça ne se fait pas. C'est une manière d'honorer l'autre, d'aller à sa rencontre. Et vous vous souvenez, qu'est-ce qui fait partie de la pompe de tout ça ? Le tapis rouge, oui. La fanfare, la mise en garde de respect, non ?
Oui.
Et aux Pays-Bas aussi, hein ?
Ouais.
Partout. Non, mais c'est important. À la rencontre du Seigneur, parce que c'est la moindre des politesses, si c'est le Seigneur qu'on aille à sa rencontre. En Afrique, c'est pareil. Quand un dignitaire, un ambassadeur va dans un village, s'il ne va pas à la rencontre, il n'est pas honoré. C'est universel. Et c'est aussi le cas des Romains. Quand des empereurs romains revenaient à Rome, on allait à sa rencontre, d'accord ? Non ? Ben oui, moindre des politesses. À la rencontre du Seigneur, terme technique réservé à l'accueil du souverain. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas honorer celui qui vient, bien sûr qu'il vient dans la ville. Il ne va pas rester aux portes de la ville, non ? Il ne va pas rester à Roissy, ou à, comment ça s'appelle, aux Pays-Bas, l'aéroport ? Oui, c'est ça. Il ne va pas rester là-bas, il va aller à Amsterdam, ou je ne sais pas où il va aller. Hein? D'accord ? Vous retenez bien ça ? Attention, restez pas dans les airs. Hein? Dans les airs. C'est quoi ce truc ? Le mot « air » ne se trouve que deux fois dans le Nouveau Testament. A-I-R en grec. A-I-R. C'est l'espace entre la terre et le ciel. Une seule autre référence chez Paul, l'air est le lieu du repère des esprits mauvais et du diable. Vous voyez ça, l'autre ? Le Éphésiens 2, verset 2, le prince de la puissance de l'air. Qui c'est le prince de la puissance de l'air ? C'est le diable. Ça veut dire quoi ? Qu'on va à la rencontre du Seigneur, dans le repère et la niche du diable, qui n'aura plus de lieu pour y être. Victoire totale. Vous voyez, nous on imagine ça juste littéralement, alors que c'est beaucoup plus chargé de la victoire sur le mal. Vous arrivez à comprendre ? Dans les airs. Mais pour nous, l'air, c'est combien de kilomètres au-dessus de la Terre ? Ça dépend, hein. Ça se raréfie au bout d'un temps. Vous voyez, nous on projette nos trucs modernes, alors que là, ils avaient une autre image de ce que c'est clair. C'est là où règnent les puissances révoltées. Vous arrivez à comprendre ? Ils n'auront plus de lieu d'être. Rendez-vous là-bas ! La casemate est prise. Casemate, c'est pendant la guerre les trucs de béton. Hein. La casemate est prise. Plus de menaces. Mais où Dieu remportera une victoire totale à sa venue, c'est pour dire qu'un jour la victoire sera totale. Alors il ne va pas rester dans les airs, je peux vous dire. Moi, quand j'ai appris ça, les gens, ils aimaient la parole, ils prenaient littéralement, mais ils ne comprenaient plus, ce truc, ça devenait très compliqué. Alors que c'est juste pour dire, mes amis, quand il vient, ce sera la totale de la victoire sur le mal et l'injustice. Le but ? Quel est le but ? Ainsi, nous, c'est qui nous ? Qui c'est nous ?
Les morts
et les vivants en Christ. Mes amis, il y aura du monde. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur Jésus. Regardez, Elisabeth et moi, on était à Rome, on a eu cette grâce. Et on a découvert quelque chose d'intéressant, que quand les empereurs victorieux rentraient, ils faisaient arc de triomphe, les gens allaient à sa rencontre et ils traînaient derrière eux les symboles et les objets de leur victoire. Des Vercingétorix aussi. Hein. D'accord ? Ça vous dit quelque chose dans les livres d'histoire ? Oui ? Le cortège triomphal de la victoire, le Christ reprend cette image très connue par les Grecs et par les Romains. Il reprend cette image pour nous dire, mes amis, vous voyez, ça c'est comme ça pour les puissants romains, mais quand le Christ reviendra, ce sera la totale comme ça. Et bien sûr, on va, et où est-ce qu'ils vont ? Dans le temps, ils allaient vers l'endroit païen, le refuge d'ailleurs qu'on a aussi visité, où il y a le palais de l'empereur, mais aussi il y a les divinités à quelles ils voulaient faire des libations et des reconnaissances. Ils appelaient ça triomphe, triomphus, la rentrée solennelle du général vainqueur à Rome, en l'accueillant à une porte de la ville jusqu'au temple de Jupiter. Ça, c'était connu du temps des Thessaloniciens. Nous, on ne savait plus trop. À la tête de ces troupes victorieuses, nous serons toujours avec la tête de ses troupes victorieuses. Et avant les insignes des rois vaincus, les trompettes le précédaient dans ce cortège. Vous allez me dire, oui, mais ça, il faut le savoir. Oui, mais quand on le sait, une fois qu'on le sait, on ne peut plus lire ce texte littéralement comme on l'a lu jusqu'à présent. Vous comprenez ? Cette manière littérale de l'enlèvement, elle est venue dans les églises qu'à peu près en 1920. Avant, on ne croyait pas comme ça. Alors, j'avance juste pour que ceux d'entre vous qui connaissent la Bible, allez à la rencontre d'eux, d'accord ? Allez à la rencontre d'eux, vous trouvez ça beaucoup, dans beaucoup de passages. Je vous donne juste des exemples. Moïse va à la rencontre du Seigneur au Sinaï. À la rameau, la foule va à sa rencontre. Les rameaux, c'est quand Jésus rentre dans Jérusalem. La foule va à sa rencontre. Pourquoi ? Parce que c'est un roi, d'accord ? À sa rencontre. C'est normal, tout le monde fait. Paul est reçu, avant d'aller à Rome, d'un endroit qui s'appelle Appius. La délégation chrétienne de Rome va le trouver là où il débarque du bateau. Les vierges sages qui vinrent à sa rencontre. C'est normal, on va honorer l'époux. À Roissy, on manifeste l'honneur. Le but, sont clairs, le Seigneur vient et nous serons avec lui toujours dans ce qu'il fait. On le retient. On est allé à sa rencontre pour honorer le dignitaire, recevoir avec les honneurs dus à son rang. C'est une politesse, mais bien sûr pour qu'il vienne dans la ville. Pas pour qu'il reste là-bas, à Roissy. Bien, ça, on l'a compris, je fais le résumé. Et maintenant, je vous montre autre chose. Qu'est-ce que c'est que les morts en Christ d'abord ? On était à Rome, et dans toute la civilisation grecque et romaine, on n'enterre jamais ainsi un mort dans la ville, toujours en dehors. Nous, aujourd'hui, dans les grandes villes, il y a des cimetières à l'intérieur des villes, non ? Père-Lachaise à Paris, ou c'est dans la ville. Hein ? Romains faisaient jamais ça. Toujours en dehors des portes de la ville. Les cimetières romains se trouvaient en dehors des villes, sur des routes, par commodité, qui mènent à la ville. Alors, quand le Seigneur revient par la Via Appia, ou peu importe l'image, vous arrivez à comprendre ? Il rencontre d'abord les cimetières où il y a des morts en Christ. Ce truc, d'abord les morts en Christ, vient de l'image de ce que c'est pour les Romains, et simultanément, nous les vivants qui serons avec lui. À la venue du ressuscité, les vivants seront associés à son triomphe, et c'est important, les vivants avec eux. Vous voyez, là vous avez une des villes qui rentre dans Rome, et vous avez les cimetières à droite, à gauche, juste le long des... Pourquoi ? Parce qu'ils n'allaient pas dans la campagne, là où il n'y a pas de route qui mène. L'apôtre Pierre et Paul, d'après la tradition, ont été pour Paul décapité et pour Pierre crucifié, et leur cadavre, c'est en dehors de la ville. Vous arrivez à comprendre ? Ainsi, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Pourquoi ? Parce que c'est par là que vient le Seigneur. Et simultanément, nous avec. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Je sais que j'arrive à la conclusion. Vous tenez toujours ? Mais c'est important pour nos vies, l'espérance, ce moteur, ce ressort. Considérez la mort. N'ayez pas peur. Parce que la mort, c'est un compagnon réaliste du voyage pour tout le monde. Pour tout le monde, pas que nous. C'est pas un compagnon réaliste, la mort ? Vous avez déjà vu votre papa et votre maman décédés ? Vous avez vu des amis de votre âge ? C'est un compagnon de vie réaliste pour toutes nos vies. Et il y a beaucoup de gens qui occultent ceci et ils vivent comme s'ils vivraient toujours comme ça. Et j'aime l'écriture parce qu'il est aussi question de la mort. Imaginez qu'à la mort, tout devient... Qu'est-ce que ça change quand on considère la mort ? L'image de nous-mêmes, ma carrière, les possessions que j'ai ou que je voudrais avoir, les possessions, l'accumulation, le capital, ce que vous voulez faire encore, tant que c'est possible, on a tous des choses qu'on aime faire, tout devra être à un moment donné laissé derrière vous. Le problème, c'est que quand le Christ revient, ces choses-là, ça comptera aussi. Mais si on ne croit pas que le Seigneur est mort, est vainqueur de la mort, on profite de tout égoïstement avant. Mais si on sait que notre manière de gérer ces choses ont des répercussions dans le monde à venir, eh ben, ça colore tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est. Avec Jésus, il y a un dernier ennemi, c'est la mort, mais c'est en espérance qu'on est sauvé. Vous vous souvenez ? Nous l'avons même lu dans Romains 8, c'est en espérance que vous êtes sauvé. Maintenant vous allez dire, mais moi je sais que je suis sauvé. Mais si vous cliquez dessus, qu'est-ce qui monte quand vous êtes sauvé ? C'est une terre sauvée. C'est un monde sauvé. C'est que les arts qu'on a reçus, la promesse que nous serons sauvés. C'est en espérance que vous êtes sauvés. Vous trouvez ça aussi dans 1 Thessaloniciens 5. Le casque de l'espérance du salut. Le casque, c'est pour protéger un endroit vital. Quand quelqu'un vous coupe la tête, c'est autre chose que quand quelqu'un vous coupe un doigt. Hein. Vous savez la différence ? C'est vital. Le casque de l'espérance du salut, c'est-à-dire ce qui vient dans mon attachement à Jésus. Alors, ce que je voulais vous dire, cette perspective nous permet de réorienter notre temps et notre énergie dans ce qu'on fait. Cette espérance, elle colore notre vie. Et reconsidérer notre vieillissement. Je connais des gens, ils ne veulent pas vieillir du tout. Le taux de suicide de retraités, c'est important. Hein. Même la déchéance des choses qu'on perd dans notre corps, est colorée par la résurrection quand on est croyant. Réapprendre le rapport aux gens et aux choses. Une grande source possible d'accomplissement. Je termine là-dessus. J'ai trois choses que j'aimerais vous montrer. On est maintenant au troisième siècle. Cyprien de Carthage. Carthage, c'est en Afrique du Nord, Carthage. C'était la grande ville possible, rivale de Rome à l'époque. Cyprien, chrétien, il dit, nous ne devons pas nous affliger, tristesse. Du rappel à Dieu de nos frères et sœurs. Du rappel à Dieu s'élabore. Puisque nous savons bien qu'ils ne sont pas perdus, mais qu'ils ne font que nous devancer. On n'ose presque plus dire ça aujourd'hui. Que nous devancer. Nous savons effectivement qu'ils ne nous quittent que pour nous précéder. Comme le font couramment les voyageurs ou les navigateurs. Et qu'il est tout à fait inopportun de porter des vêtements noirs, dit-il. Au moment où nos morts revêtent déjà une tenue éclatante. Je sais qu'on exagère ici, son inopportun, d'accord ? Mais l'orientation, elle est juste. Si cette espérance colore nos vies, ça affecte notre manière de vivre, mais aussi de voir ceux qui sont nous précèdent. Et cette manière nous précède, elle est belle, elle est juste. Voilà ce qui suit. Nous qui sommes du jour, nous dit Paul dans le chapitre suivant, soyons sobres, revêtus de cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut. Le casque, protégez votre tête. Protégez votre tête. Ne vous laissez pas mordre par le carpe diem parce que demain nous mourrons. Ne vous laissez pas mordre par le désespoir. Deux protections d'organes vitaux. La cuirasse, c'est la poitrine et le cœur. Revêtue de la cuirasse, de la foi et l'amour, c'est la foi et l'amour. La cuirasse, c'est le cœur. Et le casque, c'est la manière de voir et de penser, le casque de l'espérance du salut, c'est-à-dire la participation au royaume de Dieu que Christ va encore introduire pleinement. Frères et sœurs, moi je suis arrivé au bout de ma prédication, j'espère que ça vous consolide aussi dans votre espérance et que ça colore par l'esprit notre vie. Finalement, c'est quoi notre vie ? Une sorte de temps probatoire. C'est quoi un temps probatoire ? C'est là où vous n'êtes pas encore embauché. Hein ? C'est votre chance. C'est votre chance d'être embauché. Notre foi est appelée à s'exprimer. Cela reste un temps de réversibilité possible. Tout n'est pas joué avec le début de la foi. Le but n'est pas la nouvelle naissance. Le moyen, c'est la nouvelle naissance. Le but, c'est un monde où la justice habite, que le Christ gouverne. Ça s'appelle le salut. Vous arrivez à comprendre ? Et voici le verset de termine pour terminer. Vous avez vu, j'ai dépassé l'heure. Hein ? Je suis incorrigible. Incorrigible. Écoutez, écoutez. Dans l'épître suivante, c'est 2 Thessaloniciens. C'est donc après, les auteurs, vous souvenez le trio, prient ainsi que notre Seigneur Jésus le Messie. Lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce une consolation éternelle. C'est-à-dire, c'est solide. Une promesse. Et une bonne espérance. Une bonne espérance. Vous console et vous affermisse. Dans tout ce que vous faites et tout ce que vous dites pour le bien. Amen.